Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous salue les uns et les autres. Nous allons lire un passage dans notre Bible. Le sujet est original, vous allez le découvrir. Je voudrais simplement commencer par un proverbe populaire qui nous dit ces mots, vous le connaissez, hein. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, alors rien ne serait perdu. Je le reprends. Si jeunesse savait déjà, si vieillesse pouvait encore, ça serait le bonheur. Mais la vie est ainsi, c'est que entre ce que nous savons et que nous perdons en cours de route, et que nous pouvons finalement vivre parce que nous avons une capacité lorsque l'âge a passé, mais que nous n'avons plus la force. Alors je ne sais pas si ce matin vous vous sentez jeune ou vieux. Moi je me sens en pleine forme. Vous savez, on a toujours 20 ans, non? Allez, répondez-moi quand même. Bon, alors, à votre avis, sur quel passage de la Bible je peux vous parler ce matin? C'est une devinette. Allez, une suggestion, une, deux. Ben, vous connaissez votre Bible, non, quand même? Oh, il y a quand même si peu de pages, faut quand même pas exagérer, hein. Alors, Ecclésiaste chapitre 12. On va lire ce passage. Et puis, on va réfléchir à la question parce que, vous savez, l'apôtre Paul nous dit une chose extraordinaire, et il faut la croire, nous, en tant que chrétiens, c'est que, quand bien même notre homme extérieur se dégrade, vieillit, s'affaiblit, il nous est dit que, en parallèle, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et nous sommes comme les aigles. C'est ce qu'il est dit aussi dans la parole sur les aigles. Hein, que l'aigle rajeunit. Plus il vieillit, plus il rajeunit. Et c'est vrai qu'il est majestueux lorsqu'il plane. Hein. Il fait pas beaucoup de force parce qu'il se laisse porter par les vents. Et nous, si nous laissons porter par les ailes de la foi, eh bien, ça va aller. Alors, on va lire le passage. Et puis, on fera un commentaire sur ce texte. J'ai eu à cœur de le partager, puisque dans une église, c'est toujours intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des jeunes adultes, et puis il y a des gens d'âge mûr, et puis il y a aussi des personnes plus âgées, ou âgées, tout simplement. Alors, écoutez bien cela. Ça s'adresse pas seulement au jeune homme, mais aussi à la jeune fille. Ça commence comme ça. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui meulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Alors c'est un poème. C'est une réflexion d'un homme qui était roi, qui s'appelait Salomon, qui, tout en étant très sage, a commis aussi pas mal de choses qui étaient certainement en dehors de ce que lui croyait dans son cœur, mais qu'il ne mettait pas en pratique, il ne faisait pas. Et nous avons là, à travers cette réflexion pleine de sagesse et d'intelligence, finalement, eh bien, une considération de la vie humaine. Alors nous allons la mettre dans le cadre de notre engagement pour le Seigneur, notre vie chrétienne, et vous allez voir qu'il y a des choses quand même très intéressantes. Et si je peux commencer, enfin introduire les choses, il s'agit tout simplement d'une perspective, c'est le déroulement de la vie, comparé à un matin, en quelque sorte, qui s'illustre par la jeunesse. Ce que nous connaissons, ce que nous avons connu, ce que les jeunes connaissent aujourd'hui. Alors, comparé à un matin et à un soir, c'est-à-dire la vieillesse. Et c'est donc une réflexion sur l'existence, ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous étions hier, ce que nous serons demain, avec véritablement, eh bien, dans cette perspective de lumière et de gloire, eh bien, l'éternité dont il nous est parlé à la fin de notre texte. En d'autres termes, ces questions qui se succèdent, que faisons-nous? Comment gérons-nous ou exploitons-nous notre capital vie que Dieu nous a donné? Parce que nous tenons pour vérité cette doctrine qui est celle du créationnisme. Ce n'est pas l'évolutionnisme, c'est le créationnisme. Nous avons un Dieu créateur et un Dieu sauveur, un Dieu qui a payé le prix de notre rédemption. Alors tout cela, eh bien, ce sont beaucoup de questions. Et le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste, ça veut dire prédicateur, celui qui parle. Et nous voyons que le livre de l'Ecclésiaste, c'est plein de contrastes comme ça. À quoi bon faire le bien puisque nous allons mourir? Puis d'un autre côté, il y a une réponse, mais fais le bien parce que Dieu t'attend pour la vie éternelle. Et que finalement, celui qui sème, il récoltera. Et plein de choses comme ça. Il est très intéressant, ce livre de l'Ecclésiaste. Alors, comme il nous est dit, mais la jeunesse est semblable à l'aurore. Donc, jeunesse semblable à l'aurore. Et à travers tout cela, eh bien, ça doit nous susciter vraiment quelques interrogations avec des réponses qui nous sont données. L'aurore du jour, hein, le point du jour, c'est quelque chose, ça. Et alors, les premiers passages de notre récit, eh bien, nous exhortent à en profiter, figurez-vous. La vie chrétienne, c'est pas quelque chose de restrictif et de dire, eh bien, maintenant, je suis chrétien, je me mets entre quatre murs, je ferme la lumière, simplement une petite bougie, hein, ça me suffira. Et puis je ne vis plus. Comme ça, je pécherai plus. Comme ça, eh bien, j'aurai pas de droite et de gauche. Et certainement que... Non, c'est pas ça la vie. La vie, elle est faite avec beaucoup de choses. Mais il y a un choix qui nous appartient les uns et les autres. Et il y a parfois, c'est vrai, la rencontre avec notre propre faiblesse et vulnérabilité devant des choix. Mais Seigneur le sait. C'est très bien que nous sommes des êtres faillibles. Mais néanmoins... Et particulièrement, il s'adresse, jeune homme, jeune fille, jeune, comme vous le considérez, eh bien, c'est une exhortation à profiter de la vie, de la joie, des plaisirs sains, naturellement, que Dieu, eh bien, nous donne. Et il nous dit, mais la jeunesse est comme l'aurore, en sachant une chose, c'est que ça ne dure pas toujours. Et on le sait très bien. Nous qui sommes arrivés un certain temps, on regarde derrière maintenant, hein. Et on se souvient de ce que ça a été notre jeunesse. Alors avec les bons et les mauvais moments, il y a quelquefois beaucoup de pleurs dans la jeunesse. Recherche de soi-même, trouver sa place, beaucoup de questionnements, toutes sortes de souffrances peut-être que nous avons vécues et que nous trimballons derrière nous et qui nous alourdit. Ah oui, on aimerait que les choses soient peut-être différentes, mais elles sont comme ça. Mais elles sont comme ça, mais nous avons quelqu'un avec nous. Et qui nous aide, et qui nous connaît, qui nous comprend, et qui nous aime. C'est vrai, il faut le dire. Alors je relis ce premier passage. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. » Voilà. « Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, ne l'oublie jamais, Dieu t'appellera en jugement. » Alors, la considération du jugement n'est pas quelque chose de considéré comme une terreur, parce qu'à ce moment-là, on ne vit plus, hein. Puisque nous avons suprêmement l'information et la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous dit que la grâce et la miséricorde de Dieu surpassent le jugement. Alors vivons. Moi, j'ai toujours été assez interpellé et malheureux quelquefois de voir des chrétiens qui ne vivent pas. Toujours un petit peu là dans des limites très étroites qu'ils se sont données à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la grâce et le sens de la faveur de Dieu. Ne mange pas, ne goûte pas, ne respire pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ben alors, il n'y a plus qu'à mourir. Hein. Bon. Non, le Seigneur nous invite à vivre. Et un chrétien doit rendre un témoignage d'équilibre dans la vie. Voilà. La vie, comme il y a une certaine publicité restrictive, avec modération. Voilà. Mais la vie vaut la peine d'être vécue. Peut-être que quelqu'un vient ce matin en disant « mais j'ai envie de mourir ». Ah, ça peut arriver. Ouais. Et on n'a pas à juger, quelquefois, le savoir que certains ont connu des moments difficiles et quelquefois ils se disent « mais devant des pertes, devant des souffrances, devant des absences, des abandons, enfin toutes sortes de choses où notre âme, non, on n'en veut plus ». Et pourtant, Dieu nous dit « mais, eh bien, il faut que tu vives parce que moi j'ai besoin que tu vives ». Et que tu vives pour moi, et que tu peux retrouver peut-être un nouvel élan. Alors, c'est cela ce qui nous est dit. Et nous pouvons encore aller un peu plus loin. La jeunesse peut être regardée comme le printemps où le monde s'éclot autour de nous et pour nous. Vous vous souvenez de vos 20 ans, ou de votre adolescence? Il y a tant de choses à découvrir. Ben, pour ceux qui s'intéressent à la découverte, naturellement. Hein. Mais c'est dans le caractère un peu de chacun, vous comprenez? Et moi j'ai un petit garçon là, enfin un petit fils, il a 14 ans, c'est très intéressant, hein. Il s'intéresse à tout, il regarde ceci, il regarde cela, papy qu'est-ce que tu fais, et ceci et cela, et c'est vrai, et je me retrouve un peu quand j'avais son âge, une soif de découverte, une soif de savoir. Alors moi je dis que c'est quelque chose de formidable, vous en souvenez, non? Ben, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais je vois qu'avec le grand sourire épanoui que vous dites, on comprend. Alors, c'est vrai, c'est comme le printemps où tout est autour de nous et on a envie de tout, hein. On a une fringale de savoir, de connaître, de toucher, etc. Alors il y a des bonnes et des mauvaises choses, naturellement, et c'est pour nous. Et puis figuralement, dans le contraire, la vieillesse est à l'image de l'hiver, qui est pleine de limitations et de restrictions de toutes sortes, qui se font peu à peu et de plus en plus ressentir. Hey. Là, c'est quand même le début et la fin. Et la fin, oh, je voudrais pas vous mettre le moral là-bas, hein. Mais quelquefois, on peut plus que l'on faisait au départ, sur le plan physique, par exemple. Ah oui, bon, on est encore jeune, mais quelquefois, il y a des rappels à l'ordre, l'arthrose, et puis toutes sortes, l'essoufflement. Alors, on dit à ceux qui courent plus vite, bah, passez devant, hein, parce que on arrive. Mais il y a de la sagesse, quelquefois, à pas courir, hein. Hein? Parce que quelquefois les jeunes y courent et puis bon, il y a le mur. Ça existe aussi. Alors tout ça, ce sont des considérations que je mets devant vous pour préparer le message. Et quelque part, ce message en résumé pourrait se retrouver sous une autre forme de présentation où Dieu dirait « Va, vis, jouis de ta vitalité, satisfais les désirs de ton cœur par des plaisirs intelligents. Ne te soucie pas plus qu'il n'en faut. » Parce que la vie, c'est suffisant. Mais, rappelle-toi, la jeunesse ne dure pas toute la vie, et Dieu te jugera sur la façon dont tu as utilisé ces années. Et vous savez, quand on prend un bon départ dans la vie, et ça, c'est ce que nous disons très souvent à nos jeunes, réunion de jeunesse, quand on part bien, on est assuré d'avoir aussi une vie qui soit en rapport avec notre départ. Si nos choix sont bons dès le départ, mais ça va être bon. Il y a des ratés quelquefois. Il y a des fautes de jeunesse qui vont nous suivre toute notre vie. Dieu pardonne pour un chrétien. Ça, c'est vrai. Mais on peut peut-être avoir très longtemps un caillou dans la chaussure. Et avoir un caillou dans la chaussure, ça ne rend pas la marche aisée. Mais Dieu est là pour nous aider. Je parle pour des chrétiens, naturellement. Et voilà qu'à travers ces quelques mots, nous sommes confrontés avec le cours inexorable du temps qui nous emporte avec tous ces aléas de choses heureuses et de choses quelquefois qui sont malheureuses. Alors Dieu nous dit, prends garde de ne pas tout gâcher, de ne pas gâcher ce capital que Dieu t'a donné, parce que c'est une richesse, c'est un trésor. Souviens-toi qu'on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. On n'est pas hindouiste, où là, eh bien, vous commencez homme et vous finissez chat, ou, je ne sais pas, moi, petit oiseau, ou les choses comme ça. Non, non, ça c'est... La doctrine chrétienne nous parle d'une résurrection. Ça nous a été rappelé tout à l'heure. Hein. Jésus-Christ est ressuscité, et parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités avec lui, nous ressusciterons avec lui. Virtuellement, nous le sommes déjà. Hein. Nous avons déjà une place dans les lieux célestes. Souviens-toi et réfléchis. Et ce matin, eh bien, dans des choses simples que je voudrais partager avec vous, c'est une affaire de réflexion. Une expression clé apparaît dans notre lecture, qui est celle-ci, avant que. Alors, avant que les jours mauvais arrivent. Avant que l'obscurité, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, un peu plus loin, avant que le cordon d'argent se détache, avant que la poussière retourne à la terre. En grammaire, c'est une locution. C'est une locution qui évoque tout à la fois le sens d'une réflexion nécessaire. On ne peut pas faire l'impasse. Cela évoque également la vigilance, la prudence, un appel à faire attention, une préparation d'événements, de situations ou d'états imminents ou à terme, plus ou moins éloignés. Mais néanmoins, tout ce que nous pouvons dire arrivera, tout ce que nous pouvons prévoir arrivera. C'est là où les statistiques sont à 100% justes. Je suis jeune et je vais vieillir. Le contraire serait quand même à prouver. Je vis, mais je vais mourir. Parce que ça, c'est aussi des impondérables. Ce sont des choses qui sont absolues, on peut le dire. Et bien des choses. Mais Dieu nous a renfermés dans la vie pour que nous apprenions quelque chose. Pour que nous vivions quelque chose. Et que nous le vivions pour sa gloire. Et que nous le vivions pour qu'il soit glorifié par notre vie. Alors, on va aller un peu plus loin. Et je vais donc lire la suite. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. » Que les nuages reviennent après la pluie. Les nuages sont faits pour se vider, hein, vous le savez. Ils sont pas faits pour rester comme ça. Et j'aimerais que nous prenions en considération cette locution conjonctive quand il est dit ceci avant que. Dans le texte, nous l'avons vu 4 fois. Et cette locution est supposée 10 fois, c'est-à-dire 14 fois en tout. Parce que si vous mettez à chaque proposition, eh bien avant que ceci, avant cela, etc. C'est une énumération de choses et d'événements prévisibles, voire inéluctables, qui surviennent dans chaque existence humaine et à tous les âges, que nous soyons jeunes, que nous soyons à l'âge moyen ou que nous soyons dans la vieille, ce sont des choses qui ne manqueront pas d'arriver parce que c'est la vie tout simplement. Alors il y a avant que les jours mauvais, avant que les années s'approchent, années de désenchantement. Lorsque nous perdons finalement le dynamisme de la vision de Dieu. Avant que s'obscurcissent les lumières et les brillants illusoires de la vie, parce qu'il y a des astres, c'est vrai, mais il y a beaucoup de lumière et de brillants dans la vie de notre monde, naturellement. Avant que les nuages reviennent, c'est-à-dire l'image des épreuves et de la souffrance, des peines et des chagrins. Parce que ça, c'est incontournable. S'il y a la joie, il y a aussi son contraire. Ce qui nous amène tout simplement maintenant à faire un petit descriptif de l'affaiblissement physique, l'affaiblissement du corps de l'homme, et vous remarquerez, nous l'avons lu tout à l'heure, on y reviendra, c'est que le corps de l'homme, l'enfant, de l'adolescent, du jeune homme, de l'âge mûr et puis de la vieillesse, est comparé à une maison qui vieillit. Ouais. Et que s'il n'y a vraiment pas ce processus de vie spirituelle, comme Paul le dit, Pour autant que mon corps dépérit, parce que c'est la loi de la vie, de vieillir, autant mon âme intérieure que ma vie intérieure, ma vie spirituelle, ma vie de foi, ma communion avec le Seigneur, se renouvelle de jour en jour. Il faut absolument qu'il y ait ce phénomène, en quelque sorte, qui conduit inexorablement vers la mort, où la vie, notre vie, va prendre le dessus. Parce que notre véritable identité, nous verrons à la fin, en conclusion, notre véritable identité, c'est pas notre corps est une enveloppe qui disparaît. Par contre, Dieu a créé une âme et un esprit, et qui lui, plus l'un disparaît et se détruit, plus l'autre grandit et se développe. Ça, c'est intéressant à prendre en considération. Une maison qui vieillit. Et voilà qu'il nous est dit, avant que, et je reprends, avant que le temps où les gardiens de la maison trempent, où les hommes forts se courbent, et celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Le poète qui a écrit cela, donc imagine cette maison, mais il va donner quelque part, eh bien, une belle illustration, quelque chose de très marqué, figuré. Quand il parle des gardiens qui tremblent, il s'agit des bras et des mains qui perdent leur énergie. Hein, c'est sûr que quand on vieillit, on n'a pas la même dextérité, la même vivacité dans les bras pour porter, pour faire, pour accomplir, parce que les mains, c'est l'accomplissement, c'est ce qui nous permet de faire des actes, enfin concrétiser en tous les cas, une perte de l'énergie. Il est parlé des hommes forts avant que les hommes forts se courbent. Eh oui, il s'agit des jambes qui, eh bien, nous assurent la stabilité. Et ces jambes ne peuvent plus finalement remplir leur rôle et elles vacillent. Il est question des meunières. Imaginez les dents. Aïe, ça paraît peut-être assez particulier, mais les dents qui se cassent. Heureusement qu'on a des prothèses hein, aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Les dents qui se cassent et qui fait disparaître peu à peu la beauté, parce que c'est vrai que un visage avec jeune, avec des dents blanches, enfin bon voilà, hein, c'est quelque chose de beau. Mais tout ça, ça s'estompe. Alors on le regrette ça naturellement. Hein. On essaie de quand on commence à vieillir, on essaie de se rajeunir de plus en plus. Hein. On se fait des liftings, enfin bon toutes sortes de choses pour essayer de voilà garder un petit peu la forme. C'est bien de s'entretenir, hein. C'est bien. D'accord. Alors, les gardiens qui tremblent, les bras et les mains, les hommes forts qui se courbent, ce sont les jambes qui n'assurent plus, les meunières, ce sont les dents qui se cassent et qui disparaissent à un moment donné, celles qui regardent à la fenêtre, avant que celles qui regardent à la fenêtre, ce sont les yeux, en quelque sorte, une vue qui décline, une vie déclinante, c'est formidable, hein, les gens qui sont arrivés à un certain âge et qui n'ont pas besoin de lunettes, voilà. Moi, c'est moins faux. Hein. J'en ai partout, dans toutes mes poches et tout ça, et je sais jamais où je les mets. Et comme je vois pas sans mes lunettes, alors à ce moment-là, c'est terrible, parce que je peux toujours les chercher, je peux pas les trouver. Parce qu'il faut des lunettes pour retrouver les lunettes qu'on a perdues. Il y a une logique, c'est pas possible. Bon, en tous les cas, alors, avant que nous ait-il dit que les gardiens de la maison tremblent, les hommes forts se courbent, et celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, ou celles qui regardent par les fenêtres sont obscurcies, vous voyez les yeux qui se... Ou les deux battants, avant que les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, et l'on se lève ou l'on se lève au chant de l'oiseau, et également. Les fenêtres, ce sont les paupières et les cils, en quelque sorte, qui clignent. Et on a du mal quelquefois en vieillissant, voilà, c'est pas le regard assuré d'un jeune enfant, c'est un peu différent. Et puis, il est question tout simplement du battant des lèvres. C'est tout simplement la bouche, les lèvres, qui tremblent et qui hésitent. On le voit chez des vieilles personnes qui sont arrivées, voilà, on voit qu'il y a quelque chose là, une hésitation, un tremblement. La meule, c'est la langue. Elle n'est plus aussi vive. Quelquefois, ça rend service. La voix de l'oiseau, tout simplement. La fatigue matinale où on peut plus se lever de bonne heure. Ah, quand on est jeune, hein. Enfin, quoique, je connais des adolescents qui, quelquefois, c'est vers 15h l'après-midi, qui se lèvent. Hein. Mais il faut dire qu'on est fatigué quand on est jeune. Non, mais... C'est vrai que quand on est vieux, quelquefois, eh bien, alors mes frères et sœurs qui arrivent à un certain âge et qui vous culpabilisez parce que vous vous levez de plus en plus tard, mais c'est pas grave, mais profitez-en, voilà, hein, C'est vrai, faut pas vous culpabiliser pour ça. Bah, vous levez à 9h, bah, vous levez à 9h. Mais vous dites, bah oui, mais dans le temps, je me levais à 6h le matin, vous vous rendez compte? Eh bah, ce sera à 9h maintenant, et puis c'est tout. Moi, je dis ça pour vous rassurer, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir en disant, je peux plus faire ce que je faisais avant. Vous vous rendez compte, Alain? Moi, j'allais distribuer les prospectus, je faisais ça, je me levais, je faisais ceci et cela. Bah, vous savez ce que je veux vous dire? Bah, profitez de la grâce que Dieu vous donne, et puis, n'allez pas vous pourrir la vie avec toutes sortes de choses. C'est normal. Hein, c'est normal. Ça vous va comme ça? Je vais vous faire une ordonnance? Voilà. Alors, cette langue qui ne va plus. La voix de l'oiseau, c'est la fatigue matinale, voilà, pour se lever. Les filles du champ, figurez-vous, qu'est-ce que c'est? On les a exercées tout à l'heure, les filles du champ. C'est les cordes vocales. Ouais. C'est beau, hein, comme c'est vrai que c'est toujours très... Mais ça, nous pourrions dire, c'est le poétisme hébraïque. Les cordes du chant qui vont finir par chevroter. Moi, je connais quelqu'un, je connais bien quelqu'un, et mais il y a longtemps qu'elle est comme ça, hein. Et quand elle parle en chevrotant. Et c'est charmant, moi, je trouve, hein. C'est vrai. Et on la reconnaît entre mille, hein, quand elle parle. Ah ouais, c'est extraordinaire. Alors, la voix chevrotante, cassée. Et puis, l'amandier qui fleurit. Alors, attendez que je considère un peu, là. L'amandier qui fleurit, vous avez deviné ce que c'est? C'est les cheveux blancs. Ah, j'en vois là, attention, hein, c'est beau. Bon, il y en a qui n'ont plus de cheveux, alors on peut pas dire s'ils sont noirs ou blancs. Hein. Il y a des bien noirs aussi en tous les cas. Hein. Eh oui, c'est ça, l'amandier qui fleurit, les cheveux blancs. Et vous savez que la Bible nous en parle des cheveux blancs. Elle nous dit que c'est la couronne d'argent des vieillards. Dites donc, allez, vous rendez compte, hein. La capre sans effet. Vous connaissez ce que c'est que la capre? C'est un petit condiment. Hein. Parce que en Orient, c'était un stimulant de l'appétit et des sens. Voilà. Mais à un moment donné, ben, ça ne fait plus d'effet, tout simplement. Et pour nous dire que dans tout cela, une chose est importante dans cette vie. Souviens-toi. Rappelle-toi de ton Créateur avant que les années de déclin arrivent. Et souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Vous savez, c'est formidable. Lorsque nous avons composé une famille chrétienne et que nous pouvons donner à nos enfants un enseignement biblique ou évangélique, les apprendre à connaître le Seigneur, les apprendre à prier le Seigneur, les apprendre à chanter les louanges du Seigneur, c'est formidable. Moi, les parents qui vous avez fait ça, eh bien, je crois que vous avez rempli un grand rôle dans votre vie. Parce que bon, gagner de l'argent, c'est des choses nécessaires, ce sont des obligations sociales, etc. Mais vous savez, la vraie valeur que nous pouvons avoir, c'est quand même notre famille, notre couple et nos enfants. Et ça restera. Et il y a de la joie de voir nos enfants, non pas suivre nos traces, mais suivre les traces de Jésus. Aimer le Seigneur. Ouais. Alors ils vont devenir des adultes, nous n'avons plus grand-chose finalement à leur donner en conseil, bien que quelquefois ils reviennent encore nous dire « Papa, maman, qu'est-ce que tu en penses ?» Et ça c'est vrai, c'est très beau et très agréable, mais ils se sont devenus des adultes, ils font leur vie, hein. Faut pas, voilà, ils ont leur vie, mais une chose qui est certaine, c'est que ce qui nous réjouit, c'est quand on voit qu'ils prient le Seigneur, qu'ils sont là, eh bien, attachés à la grâce de Dieu et manifestés en toutes circonstances leur foi, et ça c'est beau. Alors ça c'est une des missions importantes, surtout d'autant plus qu'il va falloir faire très attention dans le monde dans lequel on est, parce que nous sommes dans un monde de déliquescence, de principes, de repères moraux, et là c'est véritablement préoccupant, mais c'est quelque chose. Alors souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, parce qu'il y a quantité de choses inconnues dans le présent, vers l'avenir. Quand on est jeune, on ne sait pas ce que ça va être. Et puis, quand on est déjà dans l'âge du milieu, on ne sait pas ce que sera encore. Beaucoup de choses sont inconnues pour nous. Il n'y a que le jour où on rendra notre dernier soupir. On rentrera finalement vers cet inconnu dont nous avons toujours tendu notre cœur. Mais là, ça sera véritablement la connaissance parfaite. Tout sera parfait à ce moment-là. Alors, c'est important de le dire. Mais s'il y a beaucoup de choses qui sont inconnues, il y en a une que nous savons. Parce que c'est maintenant, c'est aujourd'hui, que Dieu nous appelle à le servir, car on ne peut pas moissonner sans avoir semé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et c'est nous qui constituons notre vie. Et que lorsque notre vie est basée sur la grâce de Dieu, sur sa parole, alors à ce moment-là, le sillon, le terrain a déjà été préparé. Parce qu'il existe une loi intangible, inexorable, qui est la route, finalement, pour chacun, elle est inévitable, puisqu'il en est ainsi, car l'homme s'en va. Eh oui, nous allons toujours quelque part. Dans cette vie terrestre, nous allons quelque part. Nous faisons quelque chose. Nous espérons des choses. Nous sommes toujours en mouvement. Mais là, dans ce texte, il nous est dit, car la vie de l'homme s'en va. Alors, cela résonne de l'évangile. Sous la plume de l'apôtre Paul, il est dit, mais rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et vous en êtes tout à fait convaincu que les jours que nous vivons aujourd'hui sont certainement pas les meilleurs. Hein. Et qu'est-ce que sera demain? L'inconnu. Mais une chose, c'est que notre foi, elle est appuyée, elle est fondée sur Jésus, qui lui nous a tout annoncé d'avance. Il nous a pas tout dit, parce qu'il faut marcher par la foi, mais il faut lui faire confiance. Et c'est ce qui fait que notre vie de chrétien doit être sereine, elle doit être plaisible, elle doit être aussi bénéfice aux autres pour les aider. Une bénédiction. Alors, avant que, puisque les jours sont mauvais, rachetez le temps. Et nous revenons maintenant à ce que nous avons évoqué il y a un instant, parce que je suis un petit peu le texte. À travers la suite, quand il est dit, le deuxième partie du verset 7, il est dit cette parole, « Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs ou les pleureuses parcourent les rues. » Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. C'est la destination de tous les mortels, de tous les hommes. Et cette destination, il y a deux directions. Il y a celle de Dieu, que nous avons le choix de suivre et de poursuivre jusqu'au bout. Et il y a une bifurcation, qui est une véritable impasse, parce que la vie s'arrête. Parce que si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, il n'y a pas la vie. Il n'y a que la présence de Dieu qui apporte la vie. S'il n'y a pas la vie de Dieu, il n'y a pas de vie. Ça s'appelle de notre nom, ça s'appelle la mort, de toute manière. Et nous nous apercevons que dans ces deux destinations, au bout, il y a l'éternité, naturellement. Et il est question de pleureurs ou de pleureuses. Pleureurs de désespoir. Là où Jésus nous dira très souvent dans l'évangile, c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là où véritablement l'homme verra qu'il a fait fausse route, qu'il a peut-être zappé l'essentiel, qu'il a gâché sa vie, sinon peut-être aussi celle des autres, que peut-être il n'a pas voulu entendre l'appel de Dieu qui lui disait, qui peut-être tout au long de sa vie, enfant, adulte, vieillard, même jusqu'au dernier instant, de dire « mais c'est par la foi qu'on est sauvé, hein ?» Par la foi. Alors, il y a d'un côté ces pleureurs et ces pleureuses de désespoir, et puis il y a les joyeux de la vie, ceux qui vont dans l'autre direction, ceux qui ont la joie et la paix du Saint-Esprit, ceux qui ont l'assurance d'être sauvés, la certitude que Dieu les aime et que Dieu les a sauvés à travers Jésus-Christ et qu'il les a encore rendus capables de croire à cette bonne nouvelle et qui parcourent le monde aujourd'hui, demain peut-être pour d'autres, pour annoncer la bonne nouvelle de la vie éternelle. Et je dis, et j'ajoute, que les enfants de Dieu que nous sommes, parce que nous croyons en Jésus-Christ, ne devraient jamais appeler la mort mort. Pour nous. Sur le plan physique, ça c'est certain. Mais on ne devrait jamais l'appeler la mort. Parce que est-ce réellement la mort? Mort, parce qu'elle n'est seulement qu'une étape pour nous. Dans les services d'inhumation, j'ai souvent illustré à ces amis qui viennent peut-être pour la première fois et qui vivent un culte de sépulture évangélique, je leur dis tout, vous savez, il y a toujours quelque chose à considérer. La mort, c'est pas un point d'interrogation pour le chrétien. C'est pas un point d'exclamation peut-être, je ne sais pas. C'est pas un point final en tous les cas, mais c'est un point de suspension. Et quand on considère finalement la ponctuation, un point de suspension, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Pour nous, le point d'interrogation ne se pose pas, parce que nous savons où nous allons, et nous sommes rassurés. La paix de Dieu est dans notre cœur. Et Jésus nous en a donné suffisamment d'éléments. et nous allons vers les demeures éternelles. J'ai eu à cœur, et je vais le faire bientôt, préparer une étude sur la destinée des enfants de Dieu, des chrétiens, dans l'éternité. C'est un sujet que, il faut bien dire, on ne considère pas très souvent en prédication, hein, très peu de prédicateurs. Par contre, si vous l'avez remarqué, si vous voulez savoir où il en est parlé beaucoup, c'est dans les ailes de la foi, dans les cantiques. L'espérance des cieux, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance d'une délivrance qui sera pour toujours dans le bonheur, dans la félicité. Écoutez, vous donnez quelques avant-goûts, un avant-goût. Quand vous lisez, par exemple, ce que Jésus dira à ses disciples, pour chacun d'entre nous, c'est pour nous ça aussi, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous en êtes compte? Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit que c'était pas vrai. Mais Jésus nous dit que c'est vrai. Nous avons aucune raison de douter qu'il y a la vie éternelle, qu'il y a le ciel, qu'il y a une destination heureuse, bien heureuse, de félicité dans les lieux célestes pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et on est sauvé par la foi, et c'est une grâce, c'est pas par les œuvres. Je le mets au milieu, hein. Si cela n'était pas, nous dit Jésus, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et cette place est déjà préparée pour chacun d'entre nous. Et lorsque je m'en serai allé, crucifixion, résurrection et ascension, parce que c'est dans le contexte qu'il faut le replacer, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, allez prêtre, Jésus nous dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Nous pouvons, mes frères et sœurs, nous réjouir et de tressaillir de joie de ce que un jour le Seigneur viendra nous chercher. Alors soit par la mort de chacun, ou soit par l'enlèvement de l'Église qui se rapproche de plus en plus puisque Jésus revient. Je reviendrai. Grande vérité de la Bible. Et nous pouvons nous réjouir et de dire, mes seigneurs, je suis heureux. Je te bénis et je t'adore de ce que il n'y aura plus ni pleurs, ni crimes. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus toutes ces choses épouvantables que nous connaissons sur la terre. Il n'y aura plus que le bien et la vérité, la lumière parfaite. Moi, je crois que c'est quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Et quand nous chantons ce genre de cantiques sur la destination céleste, ce sont souvent des très beaux cantiques qui sont marqués par l'onction du Saint-Esprit. Et quelle force nous avons lorsque nous traversons des tribulations, lorsque nous traversons la maladie, lorsque nous traversons toutes sortes de choses, qu'un jour ça sera fini avec cette terre. Et que nous serons véritablement dégagés de toutes ces contingences épouvantables de souffrance et de peine, et que nous rentrerons dans une nouvelle dimension où Dieu créera des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où le mal n'existera pas, où la mort n'existera pas. Et à ce moment-là, eh bien, ça sera véritablement quelque chose où Jésus nous prévient que nous aurons aussi un corps glorifié. Alors on ne perdra plus nos dents, ni nos cheveux. On ne boitera plus. On pourra serrer la main avec eux. Voilà, comme ça. Un corps glorifié. Alors, c'est pour un temps, hein. Il y aura du chômage. Ça, certes, chez les médecins, les soignants, et puis tout ce qui... Imaginez-vous, on parle déjà de chômage aujourd'hui, alors qu'est-ce que ce sera après? Non, mais le ciel, ça sera autre chose. Vous comprenez ce que je dis, hein? Ouais. Le monde sera bouleversé dans le bien et dans sa destination. Avant que le cordon d'argent, je continue, qui est l'image du lien vital de la vie, c'est-à-dire le souffle, un homme qui n'a plus de souffle et qu'il est mort, hein. Avant que le vase d'or ne se brise, ce qui typifie notre âme comme contenant et réceptacle de la personnalité humaine, l'âme, en bon et en mauvais, notre âme, avant que le sceau se casse sur la source, qui est l'illustration de la respiration qui monte et qui descend, et qui s'arrête à jamais au moment du trépas. Avant que la roue ne se brise, c'est le temps qui passe sans pouvoir le retenir, la vie qui nous échappe. Et on dit toujours, la roue tourne. Avant qu'il ne soit trop tard, pour avoir toujours dit plus tard à Dieu. C'est maintenant, mes amis. C'est pas de dire plus tard, je suis trop occupé. La jeunesse dit « Je suis trop occupé, j'ai autre chose à faire ». Et puis la vie passe comme ça toujours en disant « Mais Seigneur, plus tard, on verra ça plus tard ». Mais à force de dire « plus tard », il arrive un moment où ça devient trop tard. C'est pour ça que ce texte a été écrit. C'est pour ça que le psalmiste, l'Ecclésiaste, a donné ces choses en disant « Mais c'est aujourd'hui qu'il faut prendre conscience ». Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes là et vous dites « Mais Seigneur, j'ai besoin d'un ressourcement, j'ai besoin d'être aiguillonné, j'ai besoin de reprendre un peu la route. Alors Seigneur, tu me donnes la parole que j'ai besoin aujourd'hui, parce que il faut que je marche, il faut que j'aille plus loin. Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe. » Vous connaissez l'histoire des vierges sages et des vierges folles. « Et que la poussière retourne à la terre » dans le texte, « comme elle y était. » Ce qui est cher, nous dit Jésus à Nicodème, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Oui, Dieu qui a donné cet Esprit. L'Esprit retourne d'où il vient, ce qui est corps, poussière, mais comme Dieu a donné son souffle de vie, l'âme et l'Esprit, eh bien il retourne à son Créateur. Un homme de foi dira ces choses, Dieu a créé le monde. L'homme et l'univers. L'incrédule répondra ou questionnera plutôt, mais qui a créé Dieu? Ah! Mais qui a créé Dieu alors? Alors la réponse, elle est dans toute la Bible, figurez-vous. Dieu est esprit. Ouais, avec un grand E. Alors là, ça dépasse notre compréhension et notre attendement. Ouais. Dieu est esprit, et il est le créateur de la matière. Et simplement pour finir avec deux versets, si vous me le consentez, dans Ésaïe, il est dit ceci, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Ouais. Le Seigneur est là ce matin, à travers une simple parole que nous partageons. Il est au milieu de nous. « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là. Le Seigneur est là. Et là, il nous voit avec nos problèmes, nos difficultés, nos questionnements, nos perplexités, tout ce que voudrait, nos douleurs et nos souffrances. Et il nous dit, je suis là pour toi. N'en doutez pas, le Seigneur est là pour nous, mais il est là pour toi. Cherchez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il se trouve. Et oui. Vous savez, les prédications ont toujours ce pouvoir de nous préparer à entendre la parole de Dieu, à recevoir la parole de Dieu d'une manière bénéfique. Et c'est ce qui se passe ce matin. C'est ce qui se passe. Et puis, un dernier texte dans le livre des Hébreux. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 3 et au verset 13, il est donné cette simple parole. Il est dit ceci, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, et afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du mal, du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, oui. Il est en nous et moi je suis en lui, et vous, vous avez Christ par le Saint-Esprit. Pourvu que vous reteniez fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui. Il est 11h25. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas vos cœurs, mais approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Quel que soit votre âge, quel que soit le temps de votre vie, quel que soit l'inconnu de votre existence, en tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Entendez sa voix, entendez l'appel qu'il vous adresse. Parce que ce que Dieu veut, après avoir considéré tout ce que nous avons considéré, c'est que Dieu veut bénir, il veut délivrer, il veut guérir et il veut sauver. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Seigneur, je veux te bénir et te remercier parce que c'est un magnifique livre qu'est la Bible. Oui, Seigneur, tu parles aux hommes. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous racontes ton histoire, toi Dieu. Tu nous dis qui tu es, Tu nous dis, Seigneur, que tu peux tout, que tu sais tout, que tu es le Créateur et que tu as une destination, puisque tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors nous ne voulons pas faire taire cette voix. Puis nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous dis aussi ce que nous sommes, ce que je suis. Et tu me parles, en effet, de ce que tu peux faire dans mes souffrances, dans mes questions, dans mes préoccupations, dans mes recherches, à travers tout ce qui appartient à l'humanité, tant en joie qu'en peine. Et Seigneur, tu n'es pas venu, Seigneur, pour, en effet, contre l'homme, mais tu es venu pour l'homme. Tu es venu pour le sauver, pour nous sauver. Je te demande maintenant, Seigneur, dans ces quelques instants que nous partageons à la suite de cette réflexion sur la vie, de visiter chacun et chacune, de les bénir, Seigneur. Moi, c'est ta bénédiction que je demande sur les uns et les autres. Bénir au nom de Dieu, bénir au nom de Jésus-Christ. Bénis mes frères et mes sœurs. Puis je te demande, Seigneur, pour ceux qui seraient encore en questionnement difficile, ceux qui seraient dans la perplexité à leur provoquer des angoisses et Seigneur, toutes sortes d'anxiétés, eh bien moi je te demande de les rassurer, parce que ton plan il est beau, ton plan il est merveilleux, ton plan c'est un plan de vie, Seigneur, c'est pas un plan de mort, c'est pas un plan de restriction, de limitation, c'est pas une prison ton plan, c'est la liberté, la véritable liberté. Alors bénis mes frères et mes sœurs. Et puis je te rends grâce et je te remercie parce que tu permets que nous levions nos yeux. Par-delà, Père éternel, cette grande question de la vie, pourquoi nous vivons? Alors à ce moment-là, tu nous réponds que cette vie, c'est une école, une belle école de préparation pour un au-delà, pour le ciel dans la gloire, pour que nous puissions vivre, eh bien Seigneur, toute l'éternité dans la présence de notre Dieu puisqu'il est la source même de la vie. Seigneur, je te remets mon corps, je te remets mon âme, je te remets mon cœur, je te remets mon esprit, pour que l'esprit, Seigneur, ton esprit, vienne véritablement recouvrir et ainsi, Seigneur, donner de la force à mon esprit, que lui-même dirige mon âme, que mon âme conduise mon cœur et que mon cœur et mon âme, eh bien, gèrent mon corps. Alors nous te remercions et nous te bénissons. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as laissé ce matin ce rappel d'une belle parole. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais comme tu nous as dit qu'elle existait, moi je crois que dans le ciel, il y a en effet, eh bien, ce que nous appelons le paradis céleste. Je le crois, Seigneur. Et nous voulons te remercier. Augmente la foi des uns et des autres. Je te demande pour celui qui pleure. Je te demande pour celui qui est en recherche. Celui qui est en errance, qui vagabonde de droite et de gauche, qui ne sait pas où aller. Mais Seigneur, ta réponse est claire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Merci de nous avoir donné de trouver notre Père céleste, à travers la personne de Jésus. Et réjouis ton peuple. Donne-lui d'être dans la paix, cette paix de Dieu. Merci pour la joie. Alors, c'est vrai, nous voulons vivre maintenant. Le temps qui nous est imparti à chacun, nous voulons le vivre, Seigneur, avec une mentalité changée. Non pas, Seigneur, en nous auto-flagellant, non pas en nous meurtrissant, non pas en limitant ou en réduisant notre vie, mais au contraire, la vivre pleinement dans la joie et dans le bonheur pour la gloire de notre Dieu, qui est la source de toutes choses. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.